trois poètes de leur vie. Tolstoï, Stendhal, Casanova. Suite par Stéphane Zweig. Casanova, chapitre 1er. Il, Casanova, me dit qu'il est un homme libre, citoyen du monde. Lettre de Muralt à Albrecht von Haller, du 21 juin 1760. Casanova figure comme cas particulier, comme réussite unique dans la littérature universelle, ne serait-ce que parce que ce charlatan fameux est entré dans le panthéon de l'esprit créateur d'une manière tout aussi injustifiée que Ponce Pilate dans le Credo. En effet, sa noblesse poétique n'est pas moins vaine que ce titre de chevalier de Stendhal, effrontément extrait de toute pièce de l'alphabet. Ces quelques vers hâtivement improvisés, en l'honneur d'une dame quelconque, entre le lit et la table de jeu, sentent le musc et la colle académique. Pour lire jusqu'au bout Lycosaméron, ce monstre de roman utopique, il faudrait la patience d'un agneau revêtu de la peau d'un âne, et quand notre bon Giacomo se met à philosopher, on fait bien, pour ne pas bâiller, de se tenir les mâchoires. Oui, il appartient aussi peu à la noblesse poétique au Gotha, ce Casanova, qui est ici également un parasite, un intrus, sans droit ni titre. Mais avec la même audace qu'il emploie durant sa vie pour arriver, lui, fils de comédien misérable, prêtre défroqué, soldat en rupture de banc, truqueur de cartes et fameux filou, ainsi que le stigmatise le lieutenant de police de Paris dans le signalement qu'il en donne, à fréquenter des empereurs et des rois et finalement mourir dans les bras du dernier gentilhomme, le prince de Ligne, d'une façon ainsi audacieuse, disons-nous, son ombre errante s'est immiscée parmi les immortels, bien qu'en apparence il ne soit qu'un petit bel esprit, unus ex multis, un peu de cendre au vent tourbillonnant du temps. Pourtant, chose curieuse, ce n'est pas lui, ce sont tous ses compatriotes célèbres et sublimes, poètes d'Arcadie, le divin Métastase, le noble Parini et tutti quanti, qui sont devenus fatras de bibliothèques et viandes à philologues, tandis que son nom, enveloppé d'un respectueux sourire, vit encore aujourd'hui sur toutes les lèvres. Et selon toute probabilité terrestre, son Iliade érotique durera encore et continuera à trouver des lecteurs enflammés lorsque depuis longtemps la Gerusalemme Liberata et le Pastor Fido, vénérables antiquités historiques que personne ne lit plus, tomberont en poussière dans les bibliothèques. D'un coup hardi, ce madré joueur a donné le pion à tous les poètes de l'Italie depuis Dante et Boccace. Et chose encore plus folle, pour un gain si énorme, Casanova ne risque aucun enjeu. Il a tout bonnement escroqué à l'immortalité le prix dont elle se fait payer. Jamais ce joueur ne se doute de l'indicible responsabilité du véritable artiste, de ce labeur épuisant poursuivi obscurément, loin de la société, tout le long du jour, au-dessous du monde des chaudes sensualités, dans la mine profonde du travail. Il ne sait rien de la joie anxieuse de toute conception, ni du désir de la réalisation qui en est l'accompagnement tragique et qui ressemble à une soif éternelle. Il ne sait rien des exigences muettes et impérieuses, toujours insatisfaites par lesquelles les formes aspirent à une plasticité effective et les idées à une pureté aérienne absolue. Il ne sait rien des nuits qu'il faut passer à veiller, ni des jours consacrés à limer dans un morne travail d'esclave les mots, jusqu'à ce qu'enfin le sang s'irradie, pur et semblable à un arc-en-ciel, à travers la lentille de la langue. Il ne sait rien du pénible travail du poète, multiple et pourtant invisible, restant sans récompense et souvent ne devant être compris qu'après des générations, rien de son héroïque renoncement à la chaleur et à l'ampleur de la vie. Lui, Casanova, s'est, Dieu sait comment, rendu toujours l'existence facile. Il n'a sacrifié aucune miette de sa joie, aucun brin de ses jouissances, aucune heure de son sommeil, aucune minute de son plaisir à la sévère déesse immortalité. Sa vie durant, il n'a pas fait le plus petit effort pour acquérir la gloire, et pourtant elle lui tombe avec surabondance dans les mains, heureux mortel qu'il est. Tant qu'ils sont encore dans sa poche, un louis et une goutte d'huile dans la lampe de son amour, tant que la réalité offre encore gracieusement quelques osselets comme jouets à ce mondain, il ne pense pas à lier commerce avec ce fantôme esprit aux yeux sévères qu'est l'art, ni à se salir les doigts sérieusement avec de l'encre. Ce n'est que lorsque tous l'ont jeté à la porte, que les femmes se moquent de lui, qu'il est solitaire, réduit à la menticité, impuissant, n'étant plus que l'ombre d'une chose usée, qu'il se réfugie, vieillard morose, dans le travail, pour y chercher un succédané de sa vie d'autrefois. Et ce n'est que faute de distraction, par ennui, démangé par le mécontentement, comme un barbet édenté par la gale, qu'il se met en grognant et en grommelant à raconter sa vie à ce sexagénaire de Casaneus Casanova, qui est un homme fini. Il se raconte sa vie. C'est là toute son œuvre littéraire, mais à vrai dire, quelle vie! 5 romans, 20 comédies, une grosse de nouvelles et d'épisodes, une luxuriance d'anecdotes et de situations les plus délicieuses, passées comme des grappes archimures au pressoir d'une seule existence jaillissante et débordante. Ici, nous avons une vie qui, par elle-même déjà, a la plénitude et la tournure d'une œuvre d'art parfaite, sans le secours ordonnateur de l'artiste ni de l'inventeur. Et ainsi se révèle, de la manière la plus convaincante, le secret, d'abord troublant, de sa gloire, car ce qui montre le génie de Casanova, ce n'est pas la façon dont il écrit et compte sa vie, mais la façon dont il l'a vécue. L'existence elle-même est l'atelier, la matière première et la forme de cet artiste mondain, et c'est à cette œuvre d'art, faite de réalité et d'originalité, qu'il s'est consacré avec toute l'ardeur créatrice que les écrivains emploient d'ordinaire en vers et en prose, passionnément résolus à donner la plus haute expression dramatique à chaque moment, à chaque possibilité encore incertaine de sa réalisation. Ce qu'un autre est obligé d'inventer, lui l'a éprouvé avec son propre souffle. Ce qu'un autre a élaboré avec l'esprit, lui l'a fait avec son corps chaud et voluptueux. C'est pourquoi ici la plume et l'imagination n'ont pas besoin d'orner après coup la réalité. Il suffit qu'elle marque un point d'arrêt dans une existence dont la forme est par elle-même essentiellement dramatique. Aucun écrivain de son temps, et à peine un autre depuis si ce n'est Balzac, n'a inventé autant de variations et de situations que Casanova en a vécu. Il n'est pas de vie réelle qui se déroule en courbes aussi hardies à travers un siècle entier. Essayons de comparer sa biographie, pour ce qui est des faits vécus, non pour la substance spirituelle ou la profondeur de la connaissance, par exemple à celle de Goethe, de Jean-Jacques Rousseau et d'autres contemporains. Qu'elles nous paraissent canalisées, pauvres en événements, étroites dans l'espace, provinciales dans leur sphère sociale, les existences de ces derniers, toutes tournées vers un but et dominées par une volonté créatrice, à côté de la carrière, jaillissante comme un fleuve et élémentaire comme lui, de cet aventurier qui change de pays, de villes et de conditions, de professions, de milieux et de femmes, comme de linge, partout se trouvant aussitôt acclimaté et accueilli par des surprises toujours différentes. Ce ne sont tous que des dilettantes de la jouissance, comme lui est un dilettante de la littérature. En effet, c'est là l'éternel tragique de l'intellectuel. Tandis qu'il est fait pour connaître toute l'ampleur et la volupté de l'existence et qu'il brûle de le pouvoir, il reste malgré tout lié à sa tâche, esclave de son labeur, assujetti par des devoirs qu'il s'est imposés, captif de l'ordre et de la terre. Tout artiste véritable vit la plus grosse moitié de son existence dans la solitude et dans le duel qui se poursuit entre lui et sa création. Ce n'est pas immédiatement, mais rien qu'au miroir de celle-ci, qui lui est permis de goûter la multiplicité désirée de l'existence. Seul celui qui vit pour vivre, celui qui n'est pas créateur, qui se borne à jouir, peut être libre et prodigue. Celui qui se propose des fins à atteindre passe à côté de la belle aventure. Un artiste ne décrit le plus souvent que ce qu'il a négligé de vivre. Quant aux jouisseurs sans entrave, qui sont la contrepartie de l'artiste, il leur manque presque toujours la puissance d'élaborer les multiples événements de leur vie. Ils se perdent dans le moment, et ainsi ce moment est perdu pour tous les autres, alors que l'artiste sait éterniser même la plus petite chose. Par là, les buts divergent, au lieu de se compléter fructueusement. Aux uns manque le vin et aux autres la coupe. Paradoxe insoluble. les hommes d'action et de plaisir auraient à raconter plus de choses vécues que tous les poètes, mais ils en sont incapables. Au contraire, les créateurs sont obligés d'inventer parce que rarement ils ont assez d'expériences vécues pour en faire l'objet d'un récit. Il est rare que des poètes aient une biographie intéressante, comme il est rare que ceux qui ont une biographie véritablement captivante sachent la raconter. Voici donc que se produit la réussite, magnifique et presque unique, que représente Casanova. Une fois enfin, un homme de plaisir et de passion, typique dévorateur de chaque moment, et qui plus est, favorisé par le destin d'aventures fantastiques, par l'esprit d'une mémoire démoniaque et par le caractère d'une absence absolue de scrupules, raconte sa vie extraordinaire, la raconte sans ménagement moral, sans édulcorant poétique, sans chamarrure philosophique, tout objectivement telle qu'elle fut, passionnée, dangereuse, avec des périodes de gueuserie, outrancière, amusante, vulgaire, insolente, effrontée, friponne, mais toujours pleine de ressorts et d'imprévus. Et en outre, il la raconte, non pas par ambition littéraire ou vantardise dogmatique, par repentir ou par une rage de confession tournant à l'exhibitionnisme, mais tout à fait allègrement et insouciamment, comme un vétéran à une table d'auberge, la pipe à la bouche, régale ses auditeurs sans préjugés de quelques aventures salées et même poivrées. Ici, ce n'est pas un fantaisiste et inventeur laborieux qui parle, mais le maître de tous les poètes. La vie elle-même, avec sa richesse d'inspiration inégalable et son fantastique coup d'aile. Quant à lui, Casanova, il n'a qu'à satisfaire la plus modeste des conditions exigées de l'artiste, rendre croyable ce qu'il est à peine. Pour cela, son art et sa force suffisent parfaitement en dépit d'un français baroque. Mais ce vieillard grognon, tout tremblotant et secoué par la goutte, dans sa sinécure de luxe, n'a même pas songé en rêve qu'un jour des philologues et des historiens à barbe grise se pencheraient pour en pénétrer toute la substance sur ses souvenirs constituant le plus précieux palimpseste du XVIIIe siècle. Et pour autant de complaisance qu'il eût à se regarder dans un miroir, le bon Giacomo, il aurait vu là une lourde plaisanterie de son maudit ennemi, monsieur l'intendant Felkenschner, si on lui eût dit que 120 ans après sa mort, une société casanovienne se fondrait justement dans sa chère ville de Paris, qui lui était interdite, à seule fin de vérifier chaque bout de papier sorti de sa main et chaque date, et de retrouver la trace des noms grattés avec soin des dames compromises par lui de façon si agréable. Considérons donc comme un bonheur que ce vaniteux n'ait pas eu le pressentiment de sa gloire, et que par conséquent, il ait été ménagé de l'éthos, du pathos et de la psychologie. Car seul celui qui n'a aucun dessein atteint cette sincérité insouciante qui, par là, a le caractère des choses élémentaires. Nonchalamment, comme toujours, le vieux joueur, Adux, s'est approché de sa table de travail, la dernière table de jeu de sa vie, et comme coup suprême, il a jeté ses mémoires à la face du destin. Puis, il s'est levé, appelé dans un autre monde, trop tôt pour voir l'effet produit. Et, ô merveille, c'est précisément ce coup suprême qui a retenti jusque dans l'immortalité. Il y est désormais logé sans qu'on puisse l'enchasser, lui, l'ex-bibliothécaire de Dux, à côté de M. de Voltaire, son adversaire, et à côté d'autres grands poètes. Et il y aura encore à lire bien des livres sur lui, car un siècle après sa mort, nous ne sommes pas du tout venus à bout de sa vie. Cette matière inépuisable inspire sans cesse à nos écrivains la tentation de retracer sa figure. Oui, il a gagné la partie, ce vieux comediante in fortuna, cet inégalable comédien de sa fortune, et contre cela tout pathos et toute protestation sont devenus vains. On peut le mépriser, notre vénéré ami, pour son défaut de morale et pour son peu de sérieux en cette matière. On peut le contredire comme historien et le désavouer comme artiste. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne puisse pas, le faire mourir de nouveau, car en dépit de tous les poètes et de tous les penseurs, l'univers n'a depuis lors inventé aucun roman plus romanesque que sa vie, ni aucune figure plus fantastique et vivante que la sienne. Note. Je n'aime pas les notes et encore moins la polémique. mais la loyauté m'oblige à faire remarquer que, aujourd'hui encore, la base décisive, à savoir le texte original de ses mémoires, manque pour apprécier d'une manière définitive la valeur artistique de la prose de Casanova. Ce que nous connaissons, ce n'est malheureusement qu'une version arbitraire et sans aucune garantie que les propriétaires du manuscrit original, la maison d'édition F.A. Bockhaus, firent confectionner par un professeur de français il y a 100 ans. Rien ne serait plus naturel que de permettre enfin, tout au moins à la science, de jeter un coup d'œil sur le texte véritable de Casanova. Il va de soi que des érudits de tous les pays, des membres de diverses académies, ont sollicité de la manière la plus pressante cette autorisation. Mais les dieux eux-mêmes lutteraient inutilement contre les Brockhaus. Le manuscrit, par suite du caprice et de l'obstination des propriétaires, est resté invisible, enfermé dans le coffre-fort de la firme. Ainsi, nous assistons à ce fait étrange qu'une des œuvres les plus intéressantes de la littérature universelle ne peut être lue et appréciée que sous la forme d'une grossière transposition, cela à cause de l'arbitraire d'un seul. La maison Brockhaus n'a même pas donné au public jusqu'à présent de raisons plausibles pour expliquer son entêtement hostile à l'art. Stefan Zweig. Chapitre 2. Portrait de jeunesse. Savez-vous que vous êtes un très bel homme ? Parole que le grand Frédéric, s'arrêtant soudain pour le regarder, adressa à Casanova en 1764 dans le parc de Sanssouci. Au théâtre, dans une petite ville de résidence, la cantatrice vient de terminer son air avec un intrépide brio. Les applaudissements ont crépité comme une averse de grêle. Mais maintenant, pendant les récitatifs qui peu à peu se déroulent, l'attention générale se relâche. Les petits maîtres font des visites dans les loges, les dames jouent de la lorgnette, mangent avec des cuillères d'argent les sublimes gelati et les sorbets couleur d'orange. C'est presque inutilement que pendant ce temps-là, sur la scène, Arlequin prodigue ses lazzi autour d'une pirouettante colombine. Soudain, les regards se tournent avec curiosité vers un étranger qui, à la fois nonchalant et hardi, avec la véritable désinvoltura d'un gentilhomme, entre en retard à l'orchestre, inconnu de tous. La richesse auréole sa taille herculéenne, un habit de velours lisse, couleur cendre, développe ses plis au-dessus d'un gilet de brocart élégamment brodé, et des dentelles précieuses, des galons d'or dessinent, depuis les agrafes du jabot de Bruxelles jusqu'au bas de soie, les lignes plus sombres du costume de gala. La main porte avec négligence un chapeau de parade à plumes blanches, un discret et suave parfum d'eau de rose ou de pommade à la dernière mode entoure le noble étranger qui maintenant s'étire avec indolence contre l'appui du premier rang de fauteuil, sa main bardée de bagues hautainement posée sur une épée d'acier anglais garnie de joyaux. Comme s'il ne remarquait pas qu'il est l'objet de l'attention générale, il élève son lorgnon d'or afin d'examiner les loges avec une indifférence affectée. Cependant, sur tous les sièges et tous les bancs, papote déjà la curiosité de la petite ville. Est-ce un prince, un riche voyageur? Les têtes se rapprochent, un murmure plein de respect fait allusion à la décoration encerclée de diamants qui se balance sur sa poitrine au bout d'un ruban cramoisi, et qu'il a tellement surchargé de pierres étincelantes que personne ne reconnaît plus le misérable ordre papal de l'éperon d'aussi peu de prix que les murs des ronces. Les chanteurs sur la scène sentent aussitôt que l'attention diminue. Les récitatifs deviennent plus négligés car, de derrière le violon et la viole, les danseuses, qui se sont glissées hors des coulisses, guettent en se demandant si ce n'est pas là un duc cousu de ducats qui leur arrive pour une lucrative nuit. Mais avant que les centaines de spectateurs qui se trouvent dans la salle aient pu résoudre la charade de cet étranger, l'énigme de son origine, les dames des loges ont remarqué une autre chose, presque avec bouleversement. Comme cet homme est beau, qu'il est beau et viril. Puissante stature, les épaules à la large carrure, les mains charnues, musclées et griffues, sans aucune ligne féminine dans son corps tendu et d'une masculinité d'acier. Il est là, debout, la nuque un peu penchée, comme un taureau avant l'attaque. Vue de côté, cette figure ressemble à une médaille romaine tellement chaque ligne ressort avec netteté métallique sur le cuivre de cette tête sombre. D'un beau mouvement, il relève son front, que tout poète pourrait lui envier, et qui se dégage ainsi sous une chevelure châtain délicatement bouclée. Le nez fait saillie comme un croc insolent et hardi, ainsi que le menton à la forte ossature, et sous celui-ci une pomme d'Adam deux fois grosse comme une noix, ce qui, à se croire les bonnes femmes, est le plus sûr garant d'une robuste virilité. Indéniablement, chaque trait du visage exprime l'impétuosité, l'audace, la résolution. Seule la lèvre, très rouge et sensuelle, se courbe molle et humide et découvre, comme la chair d'une grenade, les blancs cerneaux des dents. Lentement, le bel homme tourne à présent son profil le long du sombre amphithéâtre. Sous les paupières régulières, broussailleuses et d'une courbe parfaite, flambe dans les noires pupilles un impatient regard d'agitation, un véritable regard de chasseur en quête d'une proie, prêt à se précipiter tout à coup comme un aigle sur sa victime. Mais encore, il ne fait que flamber, il ne brûle pas tout à fait. Ce n'est qu'une sorte de feu à éclipse qui tâte les loges et qui examine, sans faire attention aux hommes, comme une marchandise à vendre, la chaleur, la nudité et la blancheur qu'il y a dans ces nids d'ombre où sont les femmes. Il les dévisage l'une après l'autre, comme un connaisseur qui choisit, tout en sentant qu'il est lui-même dévisagé par elle. Alors sa lèvre sensuelle se détend un peu, l'esquisse d'un sourire autour de sa bouche charnue de méridional fait apparaître toute brillante sa large denture d'une blancheur de neige. Ce sourire ne s'adresse encore à aucune femme en particulier. Il s'adresse toujours à elle toute, à l'entité femme, qui se cache là, chaude et nue, sous les robes. Mais voici qu'il en a découvert une qu'il connaît. Aussitôt, son regard se concentre, aussitôt, un éclat velouté et en même temps étincelant enveloppe l'œil qui, un instant plus tôt, n'était qu'une insolente interrogation. La main gauche abandonne l'épée, la droite saisit le lourd chapeau à plumes, et ainsi il s'avance, avec aux lèvres les paroles d'usage quand on reconnaît quelqu'un. Gracieusement, il incline sa nuque musclée pour baiser la main qu'on lui tend et parle à la dame avec le plus grand respect. Mais on remarque, à la manière dont, tout en étant flattée, elle s'est reculée, et à son trouble, avec quelle tendresse fondante la rioso de cette voix pénètre en elle, car elle se penche en arrière avec embarras et présente l'étranger à ceux qui sont avec elle. Le chevalier de Saint-Galt. Courbette, cérémonie, politesse, on offre au visiteur une place dans la loge qu'il refuse avec modestie, et après ce courtois échange de paroles, se développe enfin la conversation. Peu à peu, Casanova élève la voix, et ses paroles dépassent le cercle où il se trouve. À la manière des comédiens, il fait chanter avec suavité les voyelles finales et sonner les consonnes. Et toujours plus visiblement, il parle d'une voix forte et ostensible par-delà la loge, car il veut que les voisins, qui se sont inclinés, l'entendent converser avec esprit et habileté en français et en italien, et citer à propos son Horace. Comme par hasard, il a placé sa main baguée sur l'appui de la loge, de telle manière qu'on puisse de loin voir ses précieuses manchettes de dentelle, et surtout le gigantesque solitaire qui étincelle à son doigt. Maintenant, il offre aux messieurs, dans une tabatière incrustée de diamants, du tabac à priser qui vient du Mexique. « Mon ami, le ministre d'Espagne, me l'a envoyé hier par le courrier. » On entend cela jusqu'au fond de la loge voisine. Et comme l'un des cavaliers admire poliment la miniature qui orne la tabatière, il dit, d'un air nonchalant, mais malgré tout assez haut pour que cela se répande dans la salle, « Un présent de mon ami et gracieux seigneur, l'électeur de Cologne. » Il semble bavarder sans aucune intention, mais au milieu de cette façon de parader, le bravache jette sans cesse à droite et à gauche un rapide regard de rapace pour se rendre compte de l'effet qu'il produit. Oui, tout le monde s'occupe de lui. Il sent la curiosité des femmes accrochée à lui, il s'aperçoit qu'il est remarqué, admiré, honoré, et cela le rend encore plus hardi. Avec une grande adresse, il porte la conversation jusque dans la loge voisine, où est assise la favorite du prince, laquelle, il le sent, écoute, heureuse, son français à l'accent authentiquement parisien, et avec un geste de dévotion, parlant d'une belle femme, il adresse un mot de galanterie à la favorite, qui répond d'un sourire. Alors, il ne reste plus à ses amis qu'à présenter le chevalier à la grande dame. Déjà, la partie est gagnée. Demain, il déjeunera avec les personnages les plus distingués de la ville. Demain soir, dans n'importe lequel des palais, il proposera une petite partie de Pharaon et il pillera ses hôtes. Demain, il passera la nuit avec une de ses femmes éblouissantes. Et tout cela grâce à son allure dégagée, assurée et énergique, à sa volonté conquérante et à la beauté libre et virile de sa figure brune à laquelle il doit tout. Le sourire des femmes et le solitaire qu'il a au doigt, la chaîne de montre diamantée et les galons d'or, le crédit chez les banquiers et l'amitié de la noblesse, et chose plus magnifique que tout, la liberté dans l'infinie variété de la vie. Sur ces entrefaites, la prima donna s'est mise en devoir d'attaquer le nouvel air. Après une profonde révérence, déjà invitée d'une manière pressante par les cavaliers qu'a enchanté sa conversation de parfait homme du monde, ayant déjà reçu la faveur d'être prié d'assister au lever de la favorite, Casanova revient à sa place et s'assied, la main gauche appuyée sur son épée, sa belle tête brune penchée en avant, afin d'écouter le chant en connaisseur. Derrière lui, de loge en loge, passent les questions indiscrètes et comme réponse, de bouche en bouche, le chevalier de Saint-Galt. Personne n'en sait davantage sur son compte, ni d'où il vient, ni ce qu'il fait, ni où il va. Seul son nom se murmure et se susurre à travers la salle sombre et curieuse, et danse comme une flamme qui fuse, invisible sur les lèvres, jusque sur la scène, parmi les chanteuses également curieuses. Mais soudain, une petite danseuse vénitienne se met à rire. « Chevalier de Saint-Galt, oh ce fripon, mais c'est Casanova, le fils de la Bourranella, le petit abbaté qui, il y a 5 ans, par ses belles paroles, a ravi à ma sœur sa virginité, le bouffon qui amusait le vieux Bragadin, charlatan, gueux et aventurier. » Cependant, la brave fille ne semble pas s'indigner beaucoup de ses méfaits, car des coulisses, elle lui fait un signe d'intelligence et elle porte coquettement à ses lèvres le bout des doigts. Il le remarque et se rappelle. Il n'a aucune crainte à avoir. Elle ne viendra pas troubler le petit jeu qu'il a engagé avec ses nobles fous, préférant, cette nuit, coucher avec lui.